prenons le livre de 2 Samuel. 2 Samuel au chapitre 1er, à la fin. Voilà, 2 Samuel au chapitre 1er, nous voyons David qui pleure la mort de Saül et de ses fils, entre autres Jonathan, et qui fait carrément un cantique. Et il dit au verset 25, « Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? » Donc même si Saül était devenu ennemi de David, David le considérait comme un héros dans le combat, dans la guerre. Et David pleurait le fait de voir un héros qui tombe comme ça. Et David se souvenait aussi que Saül, c'était un Hébreu, c'était un Israélite. Voilà, David avait un sens très élevé de sa responsabilité en tant qu'Hébreu, en tant qu'Israélite. Malgré le fait que c'était ses ennemis, il a plus insisté sur le fait que c'était des Israélites. Et nous allons voir tout le long de la vie, enfin de cette histoire entre Saül et David, David va toujours insister sur ce côté. Au lieu de voir le côté ennemi, il va voir plus le côté israélite par rapport à ses ennemis. Nous continuons donc au chapitre 2. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je ? » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta avec ses deux femmes, Ahinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galade pour leur dire, « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité, moi aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. » Alors, David est aussi un exemple de celui qui veut se laisser piloter par Dieu. On sait que David a été un roi. David a été, et cela s'est manifesté le jour où il a tué aussi Goliath, qu'il était vraiment le roi d'Israël. À la nouvelle de la mort de Saül, David, avant de retourner en Israël, demande à Dieu s'il doit le faire. Est-ce que c'est le moment? Ce n'est pas parce qu'il a été dit qu'il était un roi qu'il pouvait s'autoriser à faire ce qu'il voulait. Donc c'est la même chose pour nous. Nous avons plein de promesses. Vous serez le premier, non le dernier. Tout homme forgé contre vous sera sans effet. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons beaucoup de promesses, mais même quand nous voulons mettre en travail ces promesses, nous avons besoin quand même de prier, d'en parler avec le Seigneur, de discuter. Nous n'avons pas les moments par rapport à certaines promesses ne sont pas toujours ce que nous on pense. Donc Dieu peut vouloir accomplir certaines promesses en son temps à lui. Et donc nous avons besoin toujours de parler au Seigneur lorsque nous voulons prendre une direction, même si nous pensons que cette direction est voulue de Dieu. Mais lorsque nous avons vu des interruptions, des blocages, il est important, lorsque nous voulons prendre la direction, de parler, d'en parler quand même avec lui. Et c'est ce que David fait. Il dit, est-ce que c'est le moment que j'aille en Israël? Dieu lui dit oui. Et il pose la question, mais où? C'est très important. Vous voyez vraiment l'humilité de David, quelqu'un qui cherche à ce que Dieu le conduise. Il n'est pas rempli d'intelligence, rempli de connaissances pour décider, dire, bon, je connais, j'ai ceci comme pouvoir, j'ai ceci comme connaissance, comme expérience. Maintenant, je prends telle route. Non, il s'enquérait auprès du Seigneur, toujours. Et là, il le fait encore. Il dit, d'accord, je peux aller en Israël, tu le dis, mais où? Et le Seigneur lui montre qu'il devait aller à Hébron. Il part à Hébron. Et là-bas, à Hébron, comme ça se trouve en Judée, à Hébron, les gens de sa tribu, parce que David est de la tribu de Juda, les gens de sa tribu le reconnaissent comme roi. Donc il avait été reconnu par Dieu, mais là maintenant, c'est les humains qui le font. Les gens de la tribu de Juda le reconnaissent comme roi. Et il envoie un message positif auprès des gens de Jabès en Galate pour leur dire, j'ai appris comment vous vous êtes soucié d'enterrer Saül. Ça m'a fait du bien. Alors que Saül, c'était l'ennemi de David. Mais David ne perdait pas de vue que c'était le roi d'Israël. Donc, entre le fait que ça soit son ennemi et qu'il soit roi d'Israël, qu'il soit roi d'Israël était plus important pour David qu'il soit son ennemi. Ça, c'est vraiment un exemple pour nous, les chrétiens, de savoir faire la différence. Donc parfois, nous allons insister sur un petit bobo et nous oublions sur la nature de nos relations, ce que ça doit être. Et on va insister sur un petit bobo pour se séparer de quelqu'un ou bien pour créer des difficultés avec quelqu'un, alors qu'on a un autre versant de relation beaucoup plus large, beaucoup plus solide. Ça, c'est ce qui arrive aussi dans les mariages, où les gens vont divorcer, vont se séparer pour un petit problème, alors que plein de choses les unissent, notamment les enfants. Donc c'est ça que l'homme, David, est un exemple de celui qui savait peser ce qui est important, ce qui est moins important. Et là, ce qui était important, c'est de savoir que Saül, c'était le roi d'Israël. On ne pouvait pas laisser quand même son corps pourrir et que les oiseaux mangent. Et les gens de Galade avaient eu le respect d'aller prendre le corps de Saül. C'était même accroché au mur. Ils ont décroché le corps de Saül et ils ont rassemblé ça avec les autres corps pour brûler. Brûler, ce n'est pas non plus bien, mais je crois que c'était probablement lié au fait que ça pourrissait peut-être. Mais ils ont eu le courage d'aller pendant la nuit dans le camp ennemi récupérer le corps de Saül. Et David les en félicite. Il n'est pas contre eux pour avoir fait ça, parce que pour avoir côtoyé certains dictateurs, même dans les choses de Dieu, il y a des gens, dès que tu fais du bien à quelqu'un qui est contre eux, c'est un problème. Donc quand lui, il est contre quelqu'un, il faut que tout le monde soit contre la personne. Et ça, c'est pas normal. Et donc David, même si c'était son ennemi, Saül, il a trouvé ça bien que les gens de Galade soient fidèles à Saül au point d'aller récupérer son corps. Il a trouvé que c'était des gens loyaux. Donc quand on a un roi, on doit respecter le roi. Voilà. Oui.
Ma question, c'était par rapport au fait que David ait été reconnu roi. Le fait que Samuel l'avait 11 ne suffisait pas, il fallait encore cette deuxième étape.
Oui, oui, même il y aura une troisième étape encore.
D'accord.
Ah oui, donc c'est Dieu te reconnaît comme un prophète, comme un pasteur, mais il faut que les gens aussi l'acceptent.
Oui,
donc c'est pas... Parce que tu vas travailler auprès des gens, tu vas diriger les gens, c'est pas Dieu que tu vas diriger. Donc même si Dieu te dit que tu es l'homme le plus intelligent, ben il faut nous faire des livres, faire des avions pour qu'on croie ça. Parce que tu vas pas être là à boire la bière et dire « je suis l'homme le plus intelligent, on me l'a dit ». Donc il faut qu'on voit, mais tiens, on a appris qu'on avait dit de lui qu'il était l'homme le plus intelligent. Tiens, il vient de fabriquer un nouveau bateau. Il vient de faire 18 sur 20 au bac. Ah, voilà, on dit, ah, mais c'est vrai ce qu'on avait dit. Mais on va entendre seulement, oui, on m'avait dit que j'étais l'homme le plus intelligent, mais tu deviens soulard. Ben, les gens diront, bon, c'était des fausses prophéties. Donc je crois que même quand Dieu nous appelle, même quand Dieu nous dit des choses, si ça doit avoir un impact sur les autres, ben les autres verront ça et les autres reconnaîtront. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Donc Dieu nous appelle en secret, Dieu nous parle à nous, mais si notre travail est lié aux autres, ben ça doit se confirmer. C'est comme certains, même si on te montre, ah, mais tiens, il y en a qui voient par exemple un frère ou une sœur en vision, mais il faut que l'autre aussi accepte. Comme une sœur m'a dit, mais j'avais prié et ce jour-là, on s'est habillés nous deux en gris. Mais oui, mais vous êtes habillés vous deux en gris, mais ça ne veut pas dire que lui ou bien il accepte. Il faut que lui, donc, elle voulait me convaincre pour que moi j'aille convaincre en quelque sorte le frère. Moi, j'ai dit non, mais d'accord, vous vous êtes habillés en gris, mais ça, c'est des probabilités mathématiques. Ça peut arriver. Donc, il faut que l'autre aussi soit convaincu d'entrer en relation avec toi. Donc, même si Dieu t'a montré, il faut que les autres soient convaincus. Donc sinon, nous tous, on va être des rois. Donc dans notre tête, on est des rois, mais et on va se battre. Donc si Dieu t'a dit que tu étais roi, il faut qu'il nous fasse accepter que tu es roi. Donc sinon, c'est le désordre. Chacun va se proclamer quelque chose et il va y avoir la guerre entre nous. Donc il faut que les humains approuvent d'une certaine manière, reconnaissent ce que Dieu a établi, pour que la chose fonctionne, parce que c'est auprès des humains que ça fonctionne. Voilà, et puis, nous continuons, verset 8. « Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Boshet, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm, et il l'établit roi sur Galaad, sur les Azérites, sur Jisraël, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. » Ish-Boshet, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël et il régna 2 ans. Il n'eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Donc, ça confirme ce qu'on a dit précédemment, c'est que finalement, David ne va régner que sur une seule tribu. Donc, la tribu de Saül d'origine, c'est la tribu de Benjamin. Benjamin et les autres tribus restent fidèles à la famille de Saül. Et le chef des armées de l'époque, Abner, bon, il convainc toutes les autres tribus de rester avec Saül. Même si tous ces gens-là étaient, il faut le savoir, ces gens-là étaient au courant de l'appel de David. Mais c'est la politique, malheureusement, les humains, parfois ils font des alliances contre Dieu ou bien ils ne veulent pas se mouiller et entrer dans des conflits pour la vérité. Donc c'est rare de voir des gens prêts à mourir ou prêts à entrer en conflit pour la vérité. En général, les gens préfèrent faire des concessions, des compromis et rester dans le statu quo, que ça continue, mais qu'on ne soit pas embêté, que je garde ma maison, que je garde mes enfants, que la vie continue. Les gens sont comme ça. Ils préfèrent que la vie continue et même s'ils savent que ce n'est pas la vérité qui est en train de s'appliquer, mais au moins la vie continue. Donc beaucoup n'ont préféré que la vie continue. Les 11 tribus sont restées avec le fils de Saül. On l'avait dit même la fois passée que si Jonathan était vivant, ça allait être très difficile à vivre par rapport au fait que c'était le plus grand ami de David. Ça allait être très difficile à vivre parce que les gens allaient monter Jonathan pour l'imposer roi et il allait avoir du mal à refuser. Voilà. Donc Dieu a préféré qu'il soit mort et que pour éviter cette épreuve-là entre deux hommes justes qui allaient maintenant se battre peut-être. Voilà, on est dans les peut-être. Jonathan est mort, ça a été une bénédiction. Et là, comme nous l'avions dit, finalement, le chef des armées établit Ish-Boshet comme roi. Et la guerre commence. Ainsi, donc Abner, fils de Ner, verset 12, et les gens d'Ishbosheth, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tserouja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang et les autres au-delà. Abner dit à Joab que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. Joab répondit qu'ils se lèvent. Et ils se lèvèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ishbosheth, fils de Saül, et 12 des gens de David. Après, bon, la suite est très difficile parce que là, entre eux, entre Israélites, ils vont se battre. Et nous arrivons au verset, au chapitre 3. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon d'Ahinoam de Jizréel, le second Kileab d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal, le troisième Absalom, fils de Maaca, fille de Talmaï, roi de Geshur, le quatrième Adonijah, fils de Haggit, le cinquième Shephatia, fils d'Abital, et le sixième Jitréam d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Donc la guerre continue entre David et la famille de Saül. Mais il va y avoir un problème entre le général, le chef d'état-major du fils de Saül et lui-même. Au verset 6, c'est écrit: pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja. Et Ishbosheth dit à Abner: pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth et il répondit: suis-je une tête de chien qui tienne pour Judas? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je n'étais pas livré entre les mains de David. Et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beersheba. Alors, un problème de femme, un problème de concubine va séparer le général avec son roi. Et c'est aussi la réalité que nous voyons dans ce monde. Beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes dans le monde sont parfois liés à des problèmes de femmes. Donc, des gens qui étaient à l'école pendant la même promotion, qui ont eu la même copine, après l'un va devenir ministre et l'autre quelque chose, après ça peut même mêler tout le pays. Un problème juste de femmes, parce que la femme c'est la gloire de l'homme. Et donc ça peut être un sujet de graves problèmes, les affaires de femmes. C'est pourquoi nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons entrer dans la maîtrise de soi par rapport à cela. N'est pas notre gloire, ce n'est pas la femme, notre gloire c'est Dieu. Donc si la femme commence à devenir ta gloire, il faut le savoir que ça finira mal pour ta vie un jour ou l'autre, comme ça l'a été pour Ishbosheth là. C'était même pas sa femme, mais c'était la femme de son père, la concubine de son père. Mais le fait que le général sorte avec elle, donc ça crée la division et il a fini par perdre sa royauté à cause de cela. Et beaucoup d'hommes, leur femme, c'est leur gloire. Mais ça finira comme on vient de lire là avec Ishbosheth. Un jour ou l'autre, ça tournera mal. Il faut que ce soit Dieu qui soit notre gloire, comme David a dit, Ô Seigneur, tu es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête. Donc il faut que ce soit ça, Dieu qui soit notre gloire. C'est des conseils à bien aimer, à prendre un exemple. Il ne faut pas attendre de vivre les choses pour comprendre. Il faut comprendre quand c'est écrit, comme on a l'habitude de dire, quand c'est écrit « interdit de stationner », vaut mieux écouter comme c'est écrit. Il ne faut pas attendre qu'il y ait le PV qui vienne, ensuite le PV qui se multiplie parce qu'on n'a pas payé et la prison. Et beaucoup attendent de vivre pour comprendre. Et quand ils vivent, ils se mettent en rébellion contre Dieu et ils perdent tout. Ils comprennent dans la perdition. Ce n'est pas bon. Il vaut mieux comprendre pour être sauvé, pas comprendre pour être perdu. Voilà. Voyons comment cette affaire-là, paf, les divise comme ça. Et puis, finalement, Abner va le vendre à David. Donc, Abner va comploter avec David et va sortir de la famille de Saül pour être avec David. Et c'est ça qui va conduire aussi à la mort de Ish-Bosheth, dont les serviteurs d'Ish-Bosheth vont venir et ils vont le tuer aussi. Et nous arrivons au verset 27. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab, on se souvient de Joab. Joab, c'est qui? Parce que c'est, quand on parle de David, il faut connaître Joab. Parce que Joab, c'était l'homme, le collaborateur le plus proche de David. C'était son général. C'était son général. Mais Joab, il venait d'une famille de trois guerriers. Donc lui, son frère Abishai et son frère Azaël. Et un autre encore. Donc sa famille avait une grande importance aux yeux de David. Donc les fils de Tseruja. Et c'était aussi sa belle famille en même temps. Et l'entourage peut détruire votre vie. L'entourage peut vous causer beaucoup de tort. Et quand je dis l'entourage, c'est des gens qui vous aiment, des gens qui sont attachés à vous. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons cultiver la logique biblique. Quel que soit ce que tu entends, que ton fils vienne te dire quelque chose, que ta mère vienne te dire quelque chose, réponds toujours bibliquement. Prends une direction biblique. Dès qu'on met les sentiments, ça finit toujours mal. On a vu comment Abner, qui savait bien que Saül devait perdre sa royauté au profit de David, a quand même combattu David et a entraîné Ish-Bosheth dans une erreur parce qu'il était fils de Saül. Donc l'entourage va t'entraîner dans quelque chose qui revient à son profit parce que Abner savait que si lui il cédait, il n'allait plus être général, chef d'état-major. C'est Joab, c'était connu de tous que c'est Joab qui allait l'être. Donc il savait qu'il perdait son poste de chef d'état-major en se ralliant à David. Et il a préféré rester chef d'état-major, mais en même temps, il te met toi en danger, il te met toi contre David. Or, il sait bien que Dieu a décidé que ce soit David qui est roi. Finalité, Ish-Bosheth meurt. Donc, il y a des gens qui vont nous entraîner à prendre des rôles, à prendre des postures, des positions pour leur faveur. Mais ils se servent de nous parce qu'ils savent que nous avons un positionnement, nous avons une richesse, nous avons un bagage, et ils peuvent se servir de nous, mais c'est pour eux. Ils nous mettent en avant, mais c'est pour eux. Donc on a mis Ish-Bosheth en avant, mais lui voulait rester chef d'état-major. Et là, erreur encore, même David, son chef d'état-major, va mal se comporter, alors que Abner s'est rallié maintenant à David, Joab va lui monter un coup pour le tuer. Donc c'est ce qu'on voit au verset 27. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Azaël, son frère. David l'apprit ensuite, et il dit, « Je suis à jamais innocent, devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner. Et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner, parce qu'il avait donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabaon dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs et pleurez devant Abner. » Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner. Et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, « Abner, devait-il mourir comme meurt un criminel ? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. » Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël ? Je suis encore faible, quoique j'aie reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tserouja, sont trop puissants pour moi que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. » Voilà. Est-ce qu'on peut dire aussi, à la fin, c'est une erreur de David ? C'est possible. Toujours est-il que David exprime sa désolation par rapport à la mort d'Abner. Pourtant, Abner, pendant longtemps, a combattu David. Mais comme nous l'avions dit précédemment, David avait le sens de l'intérêt collectif. Même si Abner l'a combattu, David non seulement avait le sens de l'intérêt collectif, il avait aussi le sens, comment dire, de comprendre la normalité des choses. Abner était général, chef d'état-major, mais le roi, c'était Ish-bosheth. Donc, Abner était amené à obéir aux ordres d'Ish-bosheth. Donc, si Abner combattait David, c'était aux ordres d'Ish-bosheth. Donc, c'est comme si il y a une guerre civile en France, enfin, une séparation, une partie de la France combat une autre partie de la France, lorsqu'il va y avoir unification. Mais on va s'accepter. On va comprendre que quand on se battait, c'est parce qu'on ne s'entendait pas. Maintenant qu'on s'entend, on réunit tout le monde, on met dans l'armée, tout le monde est là. Et donc, David, en son sens, c'était ça. Abner le combattait parce que Ish-bosheth était là, il combattait en faveur d'Ish-bosheth. Donc aujourd'hui, qu'Abner comprend et il s'humilie et se rend à David, David voulait l'intégrer comme soldat dans son armée. Mais les fils de Tserouja, Joab, il tue Abner. Et David n'était pas d'accord parce qu'Abner, pour David, c'était un Israélite comme lui. C'était ça faisait partie des gens qui étaient sous sa responsabilité. C'est très important qu'on entre dans cette dimension-là. Et on va, comme on l'a dit aussi encore le mardi passé, on va apprendre qu'un chrétien est tombé, un pasteur est tombé. On ne peut pas sauter de joie. On ne peut pas sauter de joie quand on voit un chrétien en train de subir les conséquences de ses péchés. Non, parce que nous connaissons l'appel du chrétien. Nous savons que l'appel du chrétien, c'est la gloire, c'est la vérité, c'est la sainteté. Maintenant, même quand les gens n'ont pas écouté nos conseils, nous ne pouvons pas nous réjouir de le voir dans la souffrance. Donc David ne pouvait pas se réjouir en disant, mais tiens, voilà Abner, pourquoi il m'a combattu ? Aujourd'hui, nous le disons, la faute aussi à Abner. Abner savait bien que la royauté revenait à David, mais pourquoi il a voulu faire des trucs charnels et soutenir Ishbosheth. Mais David n'a pas vu les choses dans ce sens-là. Il a considéré que c'était un vrai combattant de Dieu, un des plutôt d'Israël, un homme d'Israël, et qu'il n'avait pas à mourir comme ça, comme un voleur, dans un piège fait par ses propres frères. David n'a pas été d'accord avec ça. Et nous aussi, nous ne devons pas être d'accord avec ça. Quand quelqu'un vient vous parler du mal de quelqu'un d'autre, sachez que même si l'autre c'est votre ennemi, un jour la personne qui fait cette traîtrise, je parle bien de traîtrise, parce qu'il y a des cas où, par exemple, le Paul, on voulait le tuer par les Juifs, le fils de sa sœur a entendu, il est venu prévenir Paul, ça c'est autre chose. On ne parle pas de ce genre de choses, on parle de gens qui vont faire un complot contre quelqu'un en votre faveur. Ils disent, on va voler son argent, comme ça il va manquer de moyens pour te combattre. Oh, mais toi tu es chrétien, tu ne peux pas accepter qu'on vole de l'argent même à quelqu'un qui est ton ennemi. Oui, bien, on va le tuer. Comme ça, tu vas être toi tranquille dans ton service avec le Seigneur. Ah non, toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas accepter ce genre de procédé. Parce que c'est des procédés malhonnêtes. Et les gens qui font ça, un jour, ils te le feront à toi aussi. Donc, on ne peut pas accepter. Comme vous savez, il y a un monsieur qui est sur Internet en train de dénoncer les faux serviteurs. Bon, il a dénoncé une église en disant, leur sigle, c'est 666. Nous savons bien que cette église-là n'est pas bonne. Mais ce n'est pas une raison pour mentir toutes sortes de mensonges sur cette église-là. Donc même si on sait que ce n'est pas une bonne église, maintenant dire leur sigle c'est 666 alors qu'il y a deux lettres différentes. Non, si c'était 666, il fallait que ce soit trois lettres identiques. Mais le sigle de cette église comporte deux lettres différentes. Comment tu peux dire que c'est 666? Voilà, ce n'est pas parce qu'on sait que quelqu'un est mauvais qu'on doit aussi accepter qu'on le critique injustement. Non, on ne doit pas accepter ce genre de procédé. Même si quelqu'un est mauvais, si on doit le juger, nous devons le juger avec honnêteté, dans la droiture. Maintenant, si on commence à utiliser des procédés mauvais juste parce qu'on considère que la personne est mauvaise, donc tout est permis, sachez que les gens qui font le tout est permis, ils le feront avec vous aussi un jour. Donc n'acceptez pas qu'on juge les gens, qu'on critique les gens, qu'on monte des complots contre les gens avec des procédés impurs, des procédés tordus, de procéder de complot, parce qu'on vous le fera à vous-même. Parce que si aujourd'hui c'est à votre avantage, un jour ça sera à votre désavantage. Il faut le savoir. Il ne faut jamais vous réjouir. Les gens peuvent dire « je suis avec toi, je suis avec toi ». Mais après, ils utilisent des procédés mauvais contre l'autre qui est contre vous. Sachez que ce n'est pas bon. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont corrompus, qui ne sont pas honnêtes. Et un jour, ils le feront avec vous aussi. C'est pourquoi il faut toujours vous désolidariser de ça. En tuant Abner, ça semblait être en faveur de David. Mais David a dit non, ce n'est pas un bon procédé. Abner, c'est un combattant. Si vous l'aviez tué pendant le combat, pas de problème. Mais là, vous le tuez dans un complot, vous le trompez. Ça, c'est un mauvais procédé. Un combattant meurt pendant le combat. Ce n'est pas dans des procédés de ce genre-là. Ce que vous avez fait n'est pas bon. Et tout, on vient de lire, tout le peuple, quand il a vu le comportement de David, il a reconnu que ça, c'est vraiment notre roi. Il s'est soucié autant d'Abner que de Joab, qui a toujours été fidèle à lui. C'est aussi ça le comportement de Dieu. C'est étonnant, vous vous souvenez de la parabole du fils perdu. Quand il est revenu, le père l'a embrassé, a fait faire une fête en sa faveur, en son honneur. C'est ça le comportement de David, là. Donc, comme ce père-là a aimé le fils perdu, comme l'aîné qui était avec lui, c'était la même chose. Et David, pareil. Joab lui a été toujours fidèle. Dans les souffrances de David, Joab était là. Mais quand il a tué Abner, David n'a pas apprécié. Parce qu'un vrai père, c'est celui-là. Il aime les bons comme les mauvais. Abner n'a pas fait ce qui était bien, mais il s'est replacé sur la bonne voie. Il est venu négocier avec David. Maintenant, la personne vient négocier, toi, tu le tues par derrière. David n'a pas apprécié ça. Ce n'est pas bon. Donc, quand quelqu'un s'humilie, demande pardon, on doit reconsidérer la personne. On ne doit pas, après que la personne ait demandé pardon, vouloir encore faire un coup contre la personne. David n'a pas aimé ça. Et bien aimé, ne vous laissez pas tromper. Les gens qui sont entre guillemets pour vous et qui utilisent des mauvais procédés contre les gens qui sont contre vous, utiliseront aussi des mauvais procédés contre vous-même. Ils le feront un jour. Quand ils seront encore contre vous, ils vont utiliser les mêmes mauvais procédés. Il faut collaborer avec les gens qui travaillent dans la justice. Voilà. Oui. Il faut collaborer toujours avec les gens qui travaillent dans la justice. Et David n'a pas été content du comportement de Joab.
Par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord. Mais les personnes qui donnent des conseils, enfin, qui ont ce procès, cette manière de faire, ce ne sont pas forcément des personnes converties chrétiennes. Ou ce sont des. Enfin, pour moi.
Ah si ? Moi, je vois par exemple, je vous donne un exemple. Je vois par exemple des serviteurs qui s'affrontent par Internet et interposés. Donc il y a un qui fait une intervention et puis qui critique un autre. L'autre vient, il fait aussi cette intervention et il critique. Maintenant, quand vous lisez les commentaires des gens, mais les gens qui sont l'un pour l'autre, ils injurient parfois. Toi, tu es un escroc, toi, tu es des fois. Mais moi, je ne peux pas accepter que je prêche et que les gens que je prêche réagissent comme ça. Je veux arrêter, je veux dire, mais non. Moi, je ne vous prêche pas pour que vous injuriez. Un serviteur de Dieu, fut-il peut-être faux, mais Jésus ne nous demande pas d'injurier. Donc c'est ça. Donc ça existe même dans les milieux chrétiens où les gens, après avoir entendu la vérité, ils se comportent mal. Normalement, quand vous entendez la vérité, c'est pour être doux, c'est pour être paisible. C'est comme ce qui est écrit aussi, relève ton frère avec douceur. C'est-à-dire que quand tu as vu la faute de l'autre, mais tu dois le relever avec douceur, de peur que toi-même tu ne tombes. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Les gens, quand ils voient la faute de l'autre, mais eux-mêmes commencent encore à faire des fautes. Parce qu'ils ont vu la faute de l'autre. Ils font des fautes en jugeant. C'est-à-dire, la Bible ne nous empêche pas de discerner et de juger dans le sens de dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais la Bible nous empêche de lier quelqu'un à sa faute. De faire comme si la personne ne bougera pas de sa faute, restera comme ça. Donc, on voit par exemple les mouvements comme les mouvements qui nous ont précédés, qui sont devenus religieux, avec des liturgies, avec de façons de faire. Beaucoup de gens qui sont issus de ce mouvement-là, quand ils les quittent, au lieu de rester équilibrés selon la parole, ils les quittent en disant plus de pasteurs, plus d'organisation, plus de. Et ça crée encore un autre désordre où tout le monde fait n'importe quoi. Après, les gens, ça tue l'œuvre de Dieu, ça tue les chrétiens. Non, on doit rester, quand on est en train de corriger, on doit nous-mêmes être exemplaires. Voilà. Et là, souvent, il y a des gens, après avoir écouté une prédication de vérité, ils s'en prennent aux gens qui font des erreurs méchamment. Ce n'est pas normal. Donc nous-mêmes, nous devons être exemplaires. Voilà, la prochaine personne.
Oui, je suis d'accord avec le fait que David ne soit pas content avec ce que Joab a fait. Mais en fait, je ne comprends pas, c'est quelque part, David, il lui donne comme une malédiction. Il lui dit au verset 29 qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flou ou de la lèpre ou qui s'appuie sur un bâton ou qui tombe par l'épée ou qui manque de pain. Est-ce qu'il était obligé de faire ça?
Est-ce qu'il était obligé de faire ça? Je ne sais pas. Ça peut être aussi la malédiction qui vient de Dieu. Parce que dans la Bible, c'est écrit celui qui fait tomber le sang innocent. Il y a toute une série de malédictions sur lui.
Oui, d'accord, mais là, c'est quand même David qui parle.
Oui, mais il est serviteur de Dieu. Il est là pour sortir les bénédictions et les malédictions. Quand Dieu parle, il faut que quelqu'un parle. Mais il va parler par qui? Par ses serviteurs.
Mais je pensais qu'en tant que serviteur de Dieu, tu ne pouvais pas lancer la malédiction.
Ah non, pourquoi? Donc, les prophètes ont bien... on a prophétisé à David que son fils allait mourir.
Non, mais aujourd'hui...
Ah, là, voilà, donc maintenant... voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas lancer la malédiction. On peut prophétiser quelque chose que Dieu a décidé sur quelqu'un comme Pierre avait prophétisé sur Ananias et Saphira, qu'ils allaient mourir. Ce n'est pas que Pierre qui décide qu'il meurt, mais il prononce la sentence de Dieu sur eux. On peut, ça peut arriver. Mais, regardez, la différence qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, aujourd'hui, parce que tu as injurié un pasteur, il maudit. Ah non, là, il maudit parce qu'il est offusqué. Ce n'est pas la sentence de Dieu par rapport à toi. C'est que lui, il est énervé. Dans son énervement, il maudit. Là, c'est un péché. Mais être utilisé par Dieu pour donner ses sentences, oui, on peut donner des sentences qui sont des condamnations. Comme Jésus l'a fait. Il a dit que Jérusalem allait être détruit. Il l'a fait. Comment dire? Paul l'a fait. Pierre l'a fait. C'est des sentences de Dieu. Oui.
Pasteur, je voulais poser la question. Est-ce qu'un converti peut juger son frère par apparence?
Non.
Parce que, suivant ce que vous venez de dire tantôt là, ça s'est fait dans plusieurs églises, qu'il y a un groupe de chrétiens qui se mettent ensemble, commencent à médire ou à parler, ou se comploter contre l'un des frères. Et est-ce que cela est bon exemple?
On vient de dire que ce n'est pas bon. Donc, c'est mauvais procédé, c'est pas de bon. Il ne faut pas accepter ça. Même si ça peut jouer en ta faveur en disant, au fait, les gens sur qui on parle, c'est des gens qui parlent aussi du mal de moi. Ça peut jouer en ta faveur à un moment, mais un jour, ça jouera en ta défaveur. Donc, il ne faut pas accepter les mauvais procédés, même si ça semble t'encourager.
Et malgré nous écoutons tout ça, mais nous persistons. Ça, c'est un péché ou c'est quoi?
Je n'ai pas compris la question.
En fait, ce n'est pas bon que les chrétiens de même église, de même assemblée, puissent se comploter contre un autre.
Oui. Oui.
Alors, malgré tout cela, nous persistons. Donc, nous, chrétiens, ayant compris ces messages, nous persistons toujours rester dans le même...
C'est la chair.
C'est la chair. Merci.
Ok, nous continuons. Voilà. Ok, donc nous... Bon, il y a un point qui est dérangeant par rapport à David, c'est le verset 39, mais on lit d'abord, on lit à partir du verset 38. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël ?» Je suis encore faible, quoique j'aie reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Alors, c'est comme si David aurait dû prendre une mesure sur Joab. Il n'a pas fait sous prétexte qu'il était encore faible. Malgré le fait qu'il avait l'onction royale. J'aurais accepté la phrase que quelqu'un me dise, mais tiens, c'est par sagesse du Saint-Esprit qu'il ne l'a pas démis Joab. Mais la façon dont il parle, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus par sagesse humaine. Il s'est dit, aujourd'hui, si j'enlève les fils de Tseruja de la gestion de l'armée, ils vont devenir mes ennemis. Et pour le moment, je ne suis pas encore suffisamment... Il faut savoir que c'était aussi sa belle famille, donc je ne suis pas suffisamment fort. Et ça, c'est le raisonnement humain. J'aurais préféré que si disait, bon, ils ont mal fait, mais je ne sens pas en moi de les enlever. Voilà, je ne sens pas l'ordre du Seigneur de les démettre. Bon, là, on peut dire, bon, c'est la sagesse même de Dieu. Dieu qui permet ça. Mais là, lui, il l'a fait parce qu'il avait peur de ces gens-là. Et ça, c'est aussi une leçon pour comprendre qu'on peut vaincre Goliath et avoir peur un autre jour. D'un moins fort que Goliath. C'est une réalité. Ce n'est pas parce qu'un jour on a eu une victoire qu'on n'aura plus peur, on n'aura plus de difficultés, c'est fini. Et souvent, quand on se retrouve encore à avoir peur, on se dit, mais Dieu m'a lâché, je ne comprends pas. Et puis, non, nous sommes sur terre, nous ne sommes pas encore ressuscités. Nous pouvons connaître les faiblesses, nous devons être toujours vigilants à savoir que c'est Dieu qui est notre force. Et là, quand on perd cette vigilance-là, à savoir que Dieu est notre force, on va faire une erreur. Et vous savez que pendant tout le ministère de David, Joab a été une épine. Il a servi les erreurs de David. Et c'est lui, entre autres, qui a fait tuer Uri. Quand David voulait faire une bêtise, il passait par Joab. Mais maintenant, Joab a aussi tué finalement le fils de David, vous voyez. Donc tu le fais tuer Uri. Mais quand David lui donne l'instruction, il ne faut pas tuer mon fils, Absalom, Joab tue quand même Absalom. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais... Il ne faut pas travailler avec les gens qui font des mauvais procédés. Parce qu'un jour, ils le feront avec vous-même. C'est pas bon. Là, je pense que David aurait dû chercher la face de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à Joab, quoi. Parce qu'après toute sa vie, Joab a été un problème. Oui, oui.
Merci. Pasteur, ça veut dire que... Bon, c'est vrai qu'à certains moments, enfin, moi, ça m'arrive d'avoir peur dans certaines situations. Et il y avait la culpabilité. Je me disais, est-ce que ça veut dire que ma foi, on a pris un coup ou... Et apparemment, non, ça veut dire qu'on est quand même toujours avec le Seigneur, que notre foi, elle est toujours là, mais qu'on peut quand même, à certains moments, avoir peur.
Oui, oui.
Parce que le Seigneur dit, ne crains, crois et ne crains pas.
Mais oui, mais la peur, qui est-ce qui décide que j'ai peur? Personne. Ça tombe sur toi. Comme la colère. Bon, certes, sauf certains spécialistes de la colère qui peuvent décider, je vais me fâcher. Mais en général... La colère, ça vient, ça tombe sur nous. C'est là que nous devons en appeler aux paroles, aux promesses du Seigneur, à sa parole, pour résister à ça. Maintenant, quand on refuse de résister à cette peur-là, c'est là qu'on manque de foi. Mais que la peur tombe sur nous, c'est naturel. Et c'est même pas contrôlé par nous, en plus.
D'accord. Donc il faut la refuser.
Il faut la refuser, il faut résister en se référant à la parole de Dieu. D'accord. Voilà, merci. C'est ça.
Par rapport à ce que David a fait, là, le fait de garder Joab auprès de lui, Dieu ne lui a pas reproché quelque part?
Non, on ne voit pas où Dieu lui reproche. Hein. On ne voit pas ça.
Mais, et comme tu dis que Joab a été une épine pour lui, est-ce que David s'est rendu compte de ça, non?
Mais là, il se rend compte que... Et à la fin, oui, il en a parlé, puisqu'en mourant, il a donné l'ordre à Salomon de faire tuer Joab après. Quand David mourait, il a donné l'ordre à Salomon. Il a dit, là, moi, je m'en vais. Mais toi, quand tu vas rester, il ne faut pas laisser Joab vivre. Voilà. Parce qu'il savait que David se savait aussi fort. Il savait que Joab était fort, mais lui aussi était fort. Il craignait pour son fils. Il disait, est-ce que mon fils aura la capacité de résister au complot de Joab, à ses travers, à ses mauvais procédés? Donc, il a préféré dire à Salomon, tu l'élimines avant que... Voilà.
Donc, quelque part, ce n'est pas une vengeance?
Non, ce n'est pas une vengeance, c'est de la sagesse. Je sais que... Je sais que ça va choquer, là, mais... C'est un roi, il donne les instructions qui vont permettre la survie de la royauté, c'est comme ça. Ok. Nous continuons, mais il y avait aussi l'amour, il y avait la peur hein, de Joab, mais il aimait aussi Joab. Il n'y avait pas que la peur, il y avait aussi les relations. C'est des gens qui ont été avec lui dans la caverne d'Adoulam, dans toutes les souffrances de David, Joab était là. Il y a aussi cette relation-là où on ne veut pas contrarier la personne qui est si proche, qui a été tout le temps dans tes souffrances, qui a été là dans des difficultés, qui a été toujours là. Et souvent, on se sent redevable de telles personnes au point de pécher, parfois pour eux. Ce n'est pas bon. On ne doit pas pécher pour quelqu'un. Même si c'est quelqu'un qui nous a sauvés, on est en train de se noyer, et il nous a sortis, un jour, il sera question de pécher pour cette personne-là, d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas aller en enfer pour faire plaisir à quelqu'un. Il ne faut pas pécher pour quelqu'un. Ça, il ne faut jamais le faire. Ni, c'est pourquoi le Seigneur dit, quiconque veut me suivre et qui aime sa femme, ses enfants, plus que moi, il ne peut pas me suivre. Parce qu'un jour, cette contrainte-là d'amour va t'amener à pécher pour ces gens-là. Parce que comme David, ce n'est pas que la peur de Joab. Ça, ici, c'est la peur. Mais plus tard, ça ne sera pas la peur. Ça sera vraiment l'amour. Il aime aussi Joab. C'est quelqu'un qui l'a toujours soutenu. Voilà. Aveuglement même, quoi. Il a soutenu toujours David. C'est quelqu'un qui n'a jamais contesté la royauté de David. Alors, quelqu'un comme ça, on a du mal après à prendre une décision qui contrarie la personne. Et non, on n'a pas à faire ça. Même si quelqu'un nous a aidés, il y a plusieurs moyens de payer la dette. Il y a plusieurs moyens de payer la dette. Mais ne nous compromettons pas parce que les gens nous ont aidés tout le long de notre vie. Et nous, au chapitre 4, c'est l'assassinat de Ish-Boshet. Et puis, nous arrivons au chapitre 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dire, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Voilà la troisième étape de la consécration de David en tant que roi. Première étape, c'est Dieu lui-même par Samuel. Deuxième étape, à Hébron. Troisième étape, là, à Hébron encore, toutes les tribus viennent pour loindre roi. Parce que tu dois régner sur des gens, mais ces gens-là doivent te reconnaître. C'est très important que les gens nous reconnaissent. C'est comme un père de famille, tu dois régner sur ta famille, mais il faut que tu aies un comportement qui fasse que les enfants aussi reconnaissent que oui, tu es vraiment le papa. Et David a suffisamment montré aux gens qu'il les aimait, qu'il était vraiment le roi de tout Israël. Il a pleuré la mort d'Abner, il a pleuré la mort de Saül. Donc il a montré qu'il n'allait pas se venger, parce que vous savez, souvent les gens, dès qu'après ils deviennent rois comme ça, ils se vengent sur tous ceux qui leur ont fait du mal. Mais David a suffisamment donné des garanties qui montraient que quand il deviendrait roi, les choses allaient prendre une bonne tournure, il n'y aurait pas de règlement de compte. Et là, tous, ils viennent, ils lui disent, d'ailleurs, depuis longtemps, nous savions que c'était toi le roi qui allait prendre la place de Saül. Mais vous saviez, mais vous n'avez pas, vous avez rien fait. Mais David les accepte quand même. C'est comme nous, on se fâche quand on voit certains païens faire le mal, et puis on se dit, ah, un jour après, Dieu va les sauver, ils vont au paradis, quoi. Mais oui, mais c'est comme ça, Dieu, voilà. Donc l'essentiel, c'est qu'on vienne à lui. Donc même si toute ta vie, tu as fait le mal, si à la fin, tu te repens, il te sauve. Et parfois, ça s'embête, nous, les chrétiens. On voit que pendant que nous, on est en train de jeûner et prier, il y en a qui sont là à manger des gros hamburgers, et puis, bon, 10 ans après, il devient chrétien. Donc nous, pendant qu'on galérait, entre guillemets, lui s'amusait, aujourd'hui, Dieu le sauve. Mais oui, c'est Dieu comme ça. On doit accepter sa bonté. Donc, il sauve tout le monde. Donc, il faut accepter ça. Ce n'est pas parfois facile pour l'humain, mais il faut accepter ça. C'est la nature même de Dieu. C'est pourquoi notre frère Jean dit dans 1 Jean 4, 8, en commençant par le verset 7, hein, il y a même un chant des enfants qui le dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. » Et aime Dieu, mais celui qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. tard, car Dieu est amour. Dieu est amour. Il faut s'habituer aussi à cette nature-là, parce que si on ne s'habitue pas à cette nature de Dieu, on ne va pas le servir comme il faut. Dieu est amour, et là, les gens qui connaissaient la volonté de Dieu de mettre David comme roi n'ont pas voulu pendant 7 ans. Et après, ils viennent dire, mais on savait, aujourd'hui on vient à toi. David les accepte, ce sont ses frères, et il continue avec eux. Oui.
Moi, la question que je me posais, c'est que ils avaient besoin de passer par toutes ces épreuves avant de reconnaître, c'est-à-dire il y a eu des morts, ils ont dû perdre des membres de famille, tout ça, pour reconnaître finalement, enfin, comme eux-mêmes ils disent, ils le savaient avant, donc...
Comme nous aussi, nous sommes passés par beaucoup de résistances avant d'accepter Dieu.
Mais pourquoi voilà. Notre cœur est dur comme ça, au fait?
Ben, c'est le cœur de l'homme, voilà. C'est écrit dans la parole, dans Jérémie 17, le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître?
Voilà. Parce que même nous-mêmes, en tant que chrétiens, quelquefois, il faut passer par des situations difficiles. Il faut que le Seigneur nous fasse passer
pour céder.
Pour céder à...
Voilà, c'est ça.
Il n'y a pas d'explication spécifique.
Non, l'explication, c'est le mal. L'explication, c'est le premier péché. Souvenez-vous que le premier péché, c'était quoi? Un homme a voulu prendre la place de Dieu. Donc, sachez que nous, dans notre chair, nous avons ce péché-là de vouloir résister à Dieu. Moi, je dis souvent aux collaborateurs et aux chrétiens que le vrai problème de l'homme, ce n'est pas le vol, l'impudicité. Le vrai problème de l'homme, hein, c'est la place de Dieu. Être lui-même Dieu, c'est ça son vrai problème. Parce que quelqu'un soit impudique, s'il est humble, il va dire, Dieu, je suis impudique, aide-moi, sauve-moi. Mais l'orgueilleux, celui qui veut prendre la place de Dieu, quand il est impudique, il dit quoi? Mais Dieu a mal fait les choses. Moi, je n'ai pas forcé. La sensation d'impudicité, elle vient tout seul. Où est ma faute? Donc, il va chercher à créer des théories et lutter contre Dieu. Voilà, mais celui qui est humble lui dit, bon, j'ai le péché, je veux être sauvé. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas le vol, ce n'est pas tout ça. C'est la résistance. C'est la résistance. Et c'est ça que nous devons veiller sur cela. Et personne ne sera sauvé parce qu'il s'est bien comporté. Nous sommes sauvés pour nous être humiliés devant Dieu et demander qu'il nous sauve. C'est tout. Donc, les sauvés, c'est les mendiants. Donc, c'est les mendiants qui vont être sauvés. Oh, les orgueilleux ne peuvent pas mendier. Hein? Voilà. Jamais. Moi, je voyais même aux États-Unis, il y a donc quelqu'un qui distribuait des gâteaux gratuitement. Et donc, pendant la fête de Pâques, il a sorti les brownies. Mais il y a des passants qui passaient, vraiment l'air hautain, ils ne voulaient même pas regarder. Mais non, on vous donne des gâteaux gratuitement. Donc, ce n'est que, oh, dans le salut, ce n'est que les mendiants qui vont être sauvés. C'est des gens qui disent, oh, je suis perdu, Dieu, donne-moi ton salut, s'il te plaît. Là, tu es sauvé. Tous ceux qui veulent être sauvés par eux-mêmes, parce qu'ils vont être bons, parce qu'ils vont être forts, parce qu'ils vont avoir la foi, ils vont galérer et à la fin, tu n'es même pas sauvé. C'est ça qui est encore grave, quoi. Tu t'es bien comporté, mais tu n'es pas sauvé à la fin. Tu t'es bien comporté aux yeux des hommes. Oh, ce n'est pas les hommes qui jugent, c'est Dieu qui juge. Tu t'es bien comporté ici sur terre aux yeux des hommes, mais à la fin, tu n'es pas sauvé. Et tu vois des grands voleurs là, en train de dire au revoir, et ils entrent, enfin, pas au revoir, à Dieu, et ils entrent au paradis. Mais on va te dire, mais non, mais monsieur, on n'a jamais dit qu'on pouvait être sauvé par soi-même. On est sauvé par cadeau. Toi, tu n'avais jamais demandé le cadeau. Tu as voulu monter toi-même. Voilà, c'est ça la réalité. Oui.
Oui, moi je suis interpellé par l'attitude de David en tant que roi, parce qu'on voit véritablement les tracas et les tiraillements qu'un serviteur de Dieu, bon, lui il est roi, mais c'est un serviteur de Dieu aussi, peut vivre dans le cadre de ce service-là. Parce que comme on a souligné tout à l'heure, il va dire à son fils de faire tuer Abner, quelqu'un avec qui il a vécu des situations difficiles.
Joab
avec qui il a vécu des situations difficiles, qu'il a supporté un compagnon d'armes en quelque sorte. Donc c'est des tiraillements qui sont à un certain niveau.
Et voilà, c'est ça.
On voit bien que servir le Seigneur, c'est pas il faut être appelé quoi pour faire certaines choses, comme occuper ce poste-là de roi. C'est pas n'importe qui aurait pu le faire, parce que avoir toutes ces pensées-là ou toute cette sagesse, cette stratégie militaire, etc., il fallait bien que Dieu ait placé ça en lui et que ça arrive au temps convenable.
Voilà.
Parce que souvent, on voit des personnes
qui convoite soit le poste de pasteur ou le poste de voilà de je sais pas prédicateur ou autre, mais c'est ce qu'il y a pas derrière, c'est que il y a un appel derrière tout ça et il y a un sacrifice derrière tout ça entre guillemets, un sacrifice personnel que souvent les personnes qui convoitent comme ça oublient. Et quand je vois le cas de David, personnellement, quand je regarde les tracas qu'il vit, les difficultés qu'il vit, comment il est pourchassé comme un animal, etc., et qu'il arrive même à donner ce genre de conseils à son fils, au final, on se dit qu'il a quand même souffert quelque part de vivre ces situations-là. Donc il y a des tiraillements qui sont au-delà même de notre pensée, au-delà même de ce que nous, on peut imaginer en tant que tiers extérieur. Je dis bien. Voilà.
Oui, c'est ça la réalité. C'est vrai que oui, il y a certains postes qui réclament des sacrifices qui sont très, très immenses, qui réclament des choix parfois. Et parfois, bon, tu es australien et tu n'as que ta maman comme famille presque. Et Dieu t'envoie prêcher en Algérie, vivre en Algérie. Ce n'est pas facile. Donc, c'est... Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, mais il ne faut pas chercher la puissance de Dieu à tort et à travers. Parce que quand Dieu va te donner la puissance, ça sera pour le servir. Tu ne t'appartiendras plus, c'est fini. Déjà, on ne s'appartient pas, théoriquement, on ne s'appartient pas en tant que chrétien. Mais quand on est chrétien, il n'y a pas, voilà, on vit dans la sainteté et on va écouter la parole. Mais maintenant, quand on a reçu le don de Dieu, mais on n'a pas reçu pour s'asseoir. Et ça, c'est une autre vie qui commence. Donc, il ne faut pas rechercher les appels, les dons de Dieu à tort et à travers, comme tu viens de le dire. Il faut vraiment prendre conscience. C'est pourquoi le Seigneur a demandé à Pierre trois fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ?» Parce que là, je t'ai donné une responsabilité. Tu dois pas être mes brebis. Voilà. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, dans ma responsabilité, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture, il t'amènera où tu ne voudras pas. Donc c'est vrai qu'on doit prendre en compte toutes ces difficultés qui peuvent arriver et être prêt à payer le prix avant d'aller plus loin.
Excuse-moi, je voulais aussi revenir sur ce que tu as dit. Quand tu as dit qu'en nous, en gros, on a toujours cette convoitise en fait, de prendre la place de Dieu. Et c'est vrai que c'est aussi, entre guillemets, une porte ouverte quand on entre dans le service de Dieu comme ça, de vouloir prendre sa place. Parce que quelque part, c'est lui qui nous donne, en fait, il nous délègue, entre guillemets, un pouvoir, mais je dirais, il nous délègue quelque chose, quoi. Donc on peut très facilement, avec cette chair-là, si elle n'est pas, combattue par l'esprit, si elle n'est pas dominée par l'esprit, tomber dans ce travers-là.
Oui, oui, régulièrement. Régulièrement, les serviteurs de Dieu tombent dans ce travers-là. Bon, certains se repentent, mais Saül est un cas de cela. Il n'a pas voulu se céder vis-à-vis de Dieu. Dès qu'il a eu le pouvoir de Dieu, il n'a pas voulu céder, malheureusement. Et Salomon est tombé aussi. Salomon, il a demandé la sagesse pour gérer le peuple de Dieu. Dieu a dit, mais quelle demande extraordinaire. Mais à cause de cela, je te donne non seulement la sagesse, mais des richesses en abondance. Et Salomon a oublié de demander aussi cette sagesse pour lui-même. Lui, il a demandé la sagesse juste pour servir. Mais il a oublié qu'il fallait que lui-même aussi avait besoin de sagesse pour rester humble vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui l'a fait chuter. Donc, nous avons besoin d'être toujours humble vis-à-vis de Dieu. Le péché, là, de résister à Dieu, de prendre sa place, c'est le plus grand mal qu'il y a en nous, les humains. Et quand on oublie ça, on se concentre sur les péchés extérieurs que les gens commettent, on finit par tomber dans le grand péché de prendre la place de Dieu. Et ça nous fait tomber maintenant dans le reste aussi. C'est ça, là, ce qui est encore plus grave. Voilà, donc, finalement, nous arrivons au verset 17, un grand moment aussi du ministère de David, pour nous montrer toujours David en exemple. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les bâtit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Muriel. » Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gezer. Un exemple de David, un exemple pour nous. En tant que quelqu'un qui cherchait toujours la conduite du Seigneur. Vous avez vu Saül, on lui dit, tu attends le septième jour, jusqu'au septième jour, je fais le sacrifice et tu vas en guerre. Il n'a pas attendu. Il a attendu au septième jour, mais le septième jour, c'est resté que quelques heures, il a craqué, alors qu'il avait déjà attendu sept jours. Et il est parti, il a lui-même fait le sacrifice pour aller en guerre, tout seul. Mais là, David demande que Dieu lui dise, il va en guerre ou pas. Même si on sait que Dieu est avec nous, on ne peut pas s'engager dans n'importe quelle guerre sans l'autorisation de Dieu, dans n'importe quelle mission, dans n'importe quelle organisation. Il faut que nous ayons l'aval de Dieu parce que c'est pour lui que nous allons travailler après tout. Et là, David lui demande, je m'engage ou pas ? Et Dieu lui dit même, quand tu entendras le bruit des pas sur les mûriers, sur le sommet des arbres, le sommet des mûriers, sache que j'étais précédé. J'en profite pour dire aussi que, en tant que serviteur de Dieu, c'est ma manière de fonctionner. Pour aller dans une mission, il faut que j'entende le bruit des pas sur les mûriers. En quelque sorte, ça veut dire quoi ? Il faut que j'aie la sensation que Dieu m'a précédé dans cet endroit-là. Si je n'ai pas cette sensation-là, je ne vais pas. Il faut sentir que c'est la mission de Dieu, que Dieu te précède. Si je n'ai pas ça, on peut toujours me proposer tout ce qu'on veut. Je n'irai pas, parce que je veux que Dieu me précède. Et tu sais que si Dieu est avec toi, Dieu va manifester sa gloire. Mais se dire, tiens, il y a telle promesse dans la Bible, telle promesse. Alors, je prends mes armes et je m'en vais. Non, on peut s'en aller et se retrouver païen par la suite. Nous connaissons un pasteur qui avait fait un très, très, très bon travail à Grigny-la-Grande-Borne. À l'époque, c'était un quartier, à l'époque et aujourd'hui, ça l'est redevenu, un quartier dominé par les musulmans. Ce pasteur-là a fait un travail, il a même transformer le cinéma du quartier, c'est devenu la salle de l'église. Les voyous se sont convertis. Les musulmans ont baissé la tête, non par les armes, ni par les coups de poing, mais par la puissance spirituelle. C'est-à-dire, les musulmans avaient honte de dire qu'ils étaient musulmans, parce que vous savez, quand les jeunes se convertissent, donc eux, ils n'ont peur de personne, les jeunes. Hein. Ils se convertissent, tu es musulman, ils te prêchent la parole, ils n'ont pas peur de l'arme, ils n'ont peur de rien. Et dans ce quartier-là, les musulmans ont fait profil bas. Un quartier pourri. Quand tu es dans ce quartier, tu as peur. Mais il a transformé ce quartier en havre de paix. Mais on l'a piégé peut-être par le diable, mais on lui a demandé, une sœur de l'église a dit, j'ai ma tante qui a un problème en Guadeloupe. Dans sa maison, ça masse les ordures. Les ordures marchent toutes seules. Hein. Les boîtes de conserve jetées, les sachets jetés, ça vient s'entasser tout, ça monte dans la maison de la tante en Guadeloupe. Parce que est-ce que tu ne peux pas aller prier, faire quelque chose là-bas? Il a pris le billet pour 2 semaines. Il a fait combien? 2 ans. Il est parti pour 2 semaines, mais il a fait 2 ans. Et au moment où je vous parle, c'est pratiquement un païen. Il a toujours une église, mais il en est à sa 4e femme. Œcuménisme à fond, c'est pratiquement un païen. Mais, parce que quand il est arrivé là-bas, il a prié seulement le premier jour. Le lendemain, les immondices ont commencé encore à marcher et à sortir de la maison de la dame. Donc, les gens du quartier ont constaté que les immondices sortaient toutes seules. Non, elles n'ont pas vu ça marcher. Hein. Donc, ça se vidait. Ça se vidait tout seul. Alors, les gens sont venus en masse pour savoir, mais qui a fait ce miracle-là? L'église a commencé comme ça. En 2 ans, ils étaient déjà 1000. Ils prenaient tout. Et ils étaient 1000. Il y avait déjà 5, presque 5 églises déjà dans l'île. Le dimanche, ils prenaient 4 moyens de transport. Le train, non pas le train, l'avion, peut-être le bateau, la voiture. Donc, ils faisaient le tour de 5. Mais aujourd'hui où je vous parle, c'est pire même qu'un païen. Voilà. Et il faut dire que même dans cet élan-là, il a eu pour femme une Marocaine qu'il a rencontrée dans l'avion, il l'a convertie à Christ. Mais non, parce qu'il avait la gloire de Dieu en lui, il a fait de grandes choses, mais il n'avait pas l'autorisation de Dieu. On peut avoir la gloire de Dieu, on peut avoir la puissance de Dieu sans avoir son autorisation. La différence, c'est que quand tu n'as pas l'autorisation, quand un malheur t'arrive, tu ne t'en prendras qu'à toi-même. Et Dieu ne va pas t'accompagner pour te protéger forcément. C'est comme le policier et le bandit, ils ont tous une arme. Mais la différence, c'est que le policier a l'autorisation de s'en servir. En cas de problème, quand il y a des choses, il a l'autorisation. Mais le bandit n'a pas, ce qui fait qu'on va l'arrêter le jour où il s'en sert. Mais le policier, on ne va pas l'arrêter. Et donc toi, tu as peut-être la Bible, tu as la connaissance, tu as la puissance, puisque Dieu t'a donné les dons spirituels, tu pries pour quelqu'un, il est guéri. Mais tu n'as pas son autorisation. Ce qui fait que face aux démons de la Guadeloupe, toi, tu n'as pas de puissance pour les confronter parce que Dieu ne t'a pas envoyé les confronter. Face aux démons que tu vas rencontrer là-bas, comme tu n'avais pas reçu le feu vert de Dieu, voilà, ton don fonctionne, ton éloquence fonctionne, mais le reste ne suit pas. Et tu finis toujours par te faire avoir. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'église en Guadeloupe. Il n'y a plus rien. Il est revenu encore à Paris. Il est maintenant quelque part dans la région parisienne. Parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Et tellement il n'y a plus rien, il fait des compromis, il invite les bouddhistes, tout le monde venait, Dieu est pour tout le monde, des choses comme ça. C'est ce qui arrive quand on néglige la volonté de Dieu, on néglige l'autorisation de Dieu. David demandait toujours l'autorisation. Il ne se disait pas, j'ai tapé Goliath et je peux faire ce que je veux après. Non! On a vu qu'il a tapé Goliath, mais il a eu peur de plus faible que Goliath. Oui.
Quand tu parles de conviction intérieure au niveau du cœur par rapport à Dieu, est-ce que c'est une paix qu'on doit avoir quand on demande l'autorisation à Dieu au niveau de la sensation, au niveau du cœur? Est-ce que c'est une paix?
Moi, je dirais plutôt qu'il y aura une conviction. La conviction, dans la conviction, il peut y avoir la paix. Mais c'est surtout l'insistance de Dieu. Donc quand Dieu veut qu'on prenne un chemin, il va nous convaincre. Donc il peut avoir la paix. On peut parfois être troublé, mais sentir qu'on n'a pas le choix. On se souvient de David, du Seigneur à Golgotha. À Gethsémané, il était troublé, mais il est convaincu que c'est son chemin quand même. Voilà. Donc dans la conviction, il peut avoir la paix. Mais comme il peut ne pas y avoir. Mais on sent qu'on n'a pas le choix, c'est le chemin qu'on doit emporter. On doit prendre plutôt. Donc c'est la conviction. Voilà.
Et quand c'est pour un voyage, par exemple, un voyage, et que on se dit j'irai bien là-bas, mais qu'on veut mettre de toute façon Dieu en premier quand même, puisqu'on en appartient à Dieu, mais on ne sait pas, parce que on a quand même vécu des choses dans d'autres voyages, des épreuves en fait. Moi je vois ça comme des épreuves, et en fait donc il y a une crainte qui est venue, alors qu'avant il n'y avait pas la crainte. Donc est-ce que la, après c'est pour ma part, c'est difficile de faire la différence entre une paix qui peut être là, mais en même temps la crainte qu'elle a, parce qu'il est arrivé certaines choses que j'ai considérées comme une épreuve où Dieu s'est glorifié de toute manière.
Non, moi je pense que quand Dieu veut qu'on emprunte un chemin, il s'emploiera à nous convaincre. Donc s'il ne nous convainc pas encore, on ne l'emprunte pas. Il s'emploiera à nous convaincre. Voilà, on sera convaincu. Voilà, je prends maintenant le chemin. Tant qu'il ne nous a pas convaincus, on ne le fait pas. Voilà. Attendons qu'il nous convainque. Et David est un exemple vraiment pour nous dans ce sens-là. Il avait un passé de guerrier. Il a connu beaucoup de victoires. Et à la fin, le beau passage qu'on lira, c'est à la fin, lorsque David va citer ses amis, les 30 combattants qui étaient toujours avec lui. C'était pas n'importe qui. Donc avec une de telles personnes, il y a Éléazar, je crois, qui avait tué à lui tout seul 300 personnes. Voilà. Donc il avait des gens extraordinaires autour de lui. Il pouvait dire, bon, on y va, on va comme d'habitude emporter la bataille. Non, il demande l'autorisation à Dieu. Il demande la prière à Dieu. C'est comme quand on est appelé à prêcher la parole de Dieu. Même si on a des prédications dans nos cahiers, tu as 20, 30 prédications, parler de la part de Dieu, il faut que Dieu t'accompagne. S'il ne t'accompagne pas, c'est un beau discours. C'est Dieu. Et quelqu'un qui est de Dieu, parfois il va trembler pour faire quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Alors quelqu'un du monde, lui, ne va pas trembler. Parce qu'il a l'habitude de faire, il sait ce qu'il va faire. Mais si tu es de Dieu, même quand tu sais ce que tu as à faire, tu vas quand même parfois avoir peur. Parce qu'en réalité, il te faut la puissance divine, il te faut l'accompagnement de Dieu. Et quand parfois cet accompagnement manque, semble manquer, on tremble. Alors qu'on sait intellectuellement ce qu'on a à faire, mais c'est des choses spirituelles, ce n'est pas intellectuel. Il n'y a qu'une petite place à l'intellectuel. À l'intellect, c'est spirituel. Et on peut toujours trembler. Quand vous voyez qu'un chrétien qui ne tremble jamais pour faire ce qu'il le fait par habitude. Il le fait par habitude. Il ne le fait pas par mission divine. Quand on fait les choses de Dieu par mission divine, on va trembler de temps à autre. Oui.
Quand tu dis tu trembles quand tu fais quelque chose de Dieu, c'est tu trembles parce que
je ne dis
pas
dit tout le temps.
Non, mais
ça nous arrivera.
Voilà, quand ça arrive, c'est parce que on peut avoir peur que Dieu ne soit pas, enfin que la chair prenne le dessus ou quelque chose comme ça.
Non, pas du tout. On a peur parce que c'est des choses puissantes. Nous, on est des humains. C'est une mission grande, la mission de Dieu. Et notre en nous, on, dans le fond de nous. Nous savons ça, même si parfois consciemment nous oublions. Au fond de nous, nous sentons ce poids-là. Jésus, intellectuellement, savait qu'il allait aller à la croix. Il n'a jamais été dérangé pour ça pendant tous les 3 ans. Mais au moment, au jardin, le poids est venu. Et il a manifesté la peur. Donc les missions divines, il y a des moments où ce poids-là vient parce que nous avons affronté des démons, des esprits, des choses. Donc, à un moment, nous, on ne le voit pas. Mais quand ils nous mettent cette pression-là, on le sent sans nous en rendre compte. Et c'est là que la peur vient, alors que tu sais ce que tu as à faire. Mais il y a une pression. Il y a une pression.
C'est vraiment délicat, hein. C'est comme disait la sœur, c'est en tout cas les émotions, les ressentis, donc parfois on peut croire que justement le fait que tu aies peur, c'est parce que, là aujourd'hui t'expliques, mais moi souvent je me suis dit parfois quand on a peur, c'est parce que c'est trop charnel, parce que si jamais c'est de Dieu, tu dois être en paix. Donc c'est vrai que parfois les sentiments, les émotions qu'on ressent avec les choses du Seigneur, C'est pour ça que parfois c'est compliqué de savoir si c'est de Dieu, si c'est,
mais il faut
si
examiner. C'est charnel. Non, on peut savoir, il faut examiner. Oui, ça peut arriver que tu te dis, ton inquiétude, c'est surtout est-ce que les gens vont croire quelqu'un comme moi. Tu t'en rendras compte que c'est ça, parce que quand tu as peur comme ça, tu réfléchis, ça vient d'où? Et tu te rends compte, ah oui, j'ai peur que les gens n'écoutent pas quelqu'un comme moi. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, ça c'est je veux réussir. Alors que j'arrête de chercher à réussir, et tout d'un coup, tu n'as plus peur. Donc on doit examiner chacun d'où vient notre peur. Donc, et maintenant, si en examinant, on se rend compte que c'est parce que je me sens incapable, moi-même, ce n'est pas lié à mon succès, à une réussite, mais je me sens, moi, incapable de faire vraiment le travail. Là, c'est une peur salutaire, c'est une bonne peur qui est liée à notre incapacité. Voilà, et on demande la capacité du Seigneur. Voilà. Non, mais il faut examiner. Moi je pense que ce n'est pas délicat. J'examine d'où vient mon questionnement, d'où vient ma peur. Si je me rends compte que c'est parce que je connais, je sais que ces gens-là sont têtus, alors je ne sais pas par quel bout je veux prendre. Alors je me dis, donc ça, c'est la chair. Je demande pardon et je demande à ce que j'aille annoncer le message de Dieu. Résultat ou pas. Voilà. Et tout d'un coup, la peur s'en va. Je vais en mission kamikaze. Oui.
Oui, pasteur.
Ça marche. Hein?
Oui, toujours par rapport aux sensations. Mais parfois, on peut bien sentir les choses et tout est même bien planifié. Mais le Seigneur mettra toujours quelqu'un, enfin, si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu permettra toujours à quelqu'un de te parler, de te faire revenir à la raison, quoi.
Oui, oui. C'est pourquoi j'ai dit à Annabelle que Dieu s'emploiera à te convaincre. Donc, si ce n'est pas de lui, il s'emploiera à te convaincre que ce n'est pas de lui. Donc on a un temps d'hésitation, un temps de doute, mais le chemin de Dieu, quand il veut qu'on l'emprunte ou pas, il s'emploiera à nous convaincre d'une manière ou d'une autre. Donc ça viendra parfois de l'extérieur pour nous convaincre de ne pas prendre ce chemin-là. Oui. Après, il faut aussi qu'on soit à l'écoute, hein. Voilà. Oui.
Est-ce que c'est valable et c'est bien de se dire, enfin moi j'ai souvent ce verset qui revient, en fait, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus?
Oui, oui. Oui, oui. Mais moi, je propose la sincérité. Tu dis vraiment à Dieu sincèrement, Seigneur, je suis prêt à ce que tu me dises non comme oui. Parce que parfois, on veut tellement une chose qu'on ferme la porte au nom de Dieu. Et par conséquent, il ne nous parle pas parce qu'il sait que notre prière n'est pas vraie. On veut qu'il dise oui. Voilà. Et on reste troublé. Mais il faut qu'on soit sincère. On dit vraiment, Seigneur, je suis prêt à ce que tu me dises non ou oui, mais ce que je veux, c'est ta volonté. Voilà. Là, il nous convaincra, certainement. Ok, nous allons prier que Dieu nous aide à relire ces passages concernant David. Comme on l'avait dit au début de l'étude, quand on a commencé à parler de David, on avait dit que ça. En commençant par Samuel et Élie, on avait dit que ça allait nous apprendre sur le fonctionnement de Dieu dans le travail en tant que chrétien. En tout cas, le fonctionnement de Dieu, ça allait nous apprendre dessus. Et là, encore, on voit le fonctionnement du Seigneur. David est un exemple pour nous. Prions au nom de Jésus que nous puissions suivre cet exemple. Seigneur, nous te demandons de nous libérer du péché d'origine, le péché qui a conduit Adam à vouloir prendre ta place. Aide-nous à vaincre ce péché chaque jour. Que chaque jour, nous nous humilions et que nous te laissions accomplir ta volonté sur nous, Seigneur. Que nous ne soyons pas influencés par les bêtises des autres pour prendre de mauvaises décisions, pour prendre de mauvaises voies. Que nous puissions nous laisser inspirer par toi. Nous voyons David qui a bien vu la bêtise du peuple, la bêtise d'Abner. Il n'a pas voulu pour autant prendre la mauvaise voie. Il a vu la bêtise de Saül, mais il n'a pas voulu le tuer. Il a voulu rester intègre, lui. Aide-nous à rester intègre conformément à ta parole, à ne pas user de mauvais procédés envers les méchants, car la méchanceté appartient aux méchants. Face aux méchants, que nous continuions à user de bons procédés et que nous puissions conseiller les chrétiens qui usent de mauvais procédés d'arrêter parce que ça n'honore pas ton nom, Seigneur. Aide-nous à te suivre en toutes choses, Seigneur. Aide-nous à chercher ton autorisation, ton autorité concernant toute mission dans laquelle nous nous engageons, toute direction dans laquelle nous nous engageons, que nous recevions ton aval, que nous entendions le bruit des pas sur les mûriers avant de nous déplacer pour aller saisir la victoire. Merci pour ta bienveillance et ta bénédiction. À toi la gloire, la louange pour ce serviteur que tu as travaillé, construit, élevé pour notre enseignement, pour notre perfectionnement. Béni soit ton nom pour David. Au nom de Jésus. Amen.